Il paraît que nous possédons une horloge biologique interne qui détermine les périodes d'éveil et de sommeil. Dormir est une activité naturelle mais relativement complexe. C'est au début de la nuit que le sommeil est le plus profond et ensuite viennent les rêves qui, comme chacun sait, peuvent être extrêmement bizarres. Salomon écrit « Les rêves naissent de la multitude des occupations ». Dans l'Antiquité, et même encore aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que les rêves sont prémonitoires. Il est vrai qu'avec les visions, ils sont l'un des moyens que Dieu utilisa pour révéler l'avenir à ses prophètes. Je continue à lire dans le premier chapitre du livre de Daniel. Dieu accorda à ces quatre jeunes gens, c'est-à-dire Daniel, ses amis Anania, Michaël et Azaria, le savoir et la compréhension de toute la littérature et de la sagesse. De plus, Daniel savait interpréter toutes les visions et tous les rêves. Verset 17. Ces jeunes Israélites ont appris les arts et les sciences et probablement assimilé toute la connaissance que les Babyloniens et les Chaldéens possédaient concernant le monde aussi bien physique que spirituel. Leur capacité de raisonnement logique et leur discernement étaient hors du commun parce que surnaturel. Tout comme Joseph avant lui, Daniel était capable de donner le sens d'un rêve. De toute évidence, il avait étudié des pratiques païennes, mais sa faculté d'interpréter des songes et des visions était un don de Dieu qui est à distinguer du savoir occulte babylonien dans les domaines de la divination, l'astrologie ou la nécromancie, qui étaient des pratiques strictement interdites par la loi de Moïse. Je continue le texte. À la fin de la période fixée par le roi, le chef du personnel introduisit les jeunes gens en présence de Nabuchodonosor. Verset 18. Après des études qui s'étendirent sur 3 ans, Daniel et ses 3 amis sont introduits dans la salle du trône afin que Nabuchodonosor puisse les examiner de près. Ce n'est pas par hasard que ce despote avait réussi à conquérir l'Assyrie et l'Égypte, car il était intelligent et rusé, et il savait fort bien que ce n'est pas par la force qu'il obtiendrait des conseillers de valeur. Il gagnait l'allégeance de ses serviteurs en les traitant comme des rois et en leur donnant la meilleure éducation possible. Je continue. Le roi s'entretint avec eux et, de tous les jeunes gens qui lui furent présentés, il n'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. C'est pourquoi ils entrèrent au service personnel du roi. Verset 19. Comme ces 4 amis se sont distingués en étant les meilleurs de tous les jeunes Israélites qui avaient reçu la formation de 3 ans, ils sont attachés à l'empereur en tant que conseillers personnel. Je continue. Chaque fois que le roi les consultait sur une question exigeante à la fois de la sagesse et du discernement, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les mages et magiciens de son royaume. Verset 20. Les mages étaient des savants, des scribes sacrés qui écrivaient et interprétaient les livres de magie. Le mot pour magicien ne se trouve que dans le livre de Daniel et signifie « ceux qui soufflent », c'est-à-dire des exorcistes qui, par des formules incantatoires et conjuratrices, prononcées à demi-voix, prétendent éloigner les mauvais esprits. 10 fois supérieur est une expression idiomatique qui signifie « de beaucoup supérieur ». Ces amis prouvent leur compétence qui, dans leur cas, on le sait, est d'origine divine. Les mages et magiciens étaient des hommes expérimentés dans leur art, et de plus, ils devaient être de fins psychologues afin de toujours plaire au roi. Ils savaient comment dire oui et non en même temps et faire passer leurs réponses comme un trait de génie. Mais Nabuchodonosor ne s'y trompe pas, il n'est pas tombé de la dernière pluie. Il est habitué à l'hypocrisie de ses conseillers, mais jusqu'à présent l'a accepté parce qu'elle le flatte. Il va sans dire que cet homme, comme d'ailleurs tous les despotes, a une hypertrophie du moi. Ceci dit, quand il a vraiment besoin d'une réponse précise à une situation problématique qui se présente à lui, c'est Daniel et ses compagnons qu'il consulte et pas ses mignons de cour. Je finis le chapitre premier. Daniel demeura à la cour de Babylone jusqu'à la première année du règne du roi Cyrus. Verset 21. La première année de Cyrus est mentionnée parce que c'est la date de l'édit qui permit aux Juifs de revenir dans leur pays en Palestine. On sait aussi que 2 ans plus tard, Daniel était toujours en vie, or il devait avoir entre 80 et 90 ans. C'est en 539 avant Jésus-Christ qu'un certain Gubaru, général de Cyrus, a pris Babylone. Il en devint le gouverneur sous le nom de Darius le Mède, avec le titre de roi des Chaldéens, tout en étant vassal de Cyrus son maître, qui est alors le grand patron du Moyen-Orient. Mais au bout d'un an et 3 semaines, Gubaru meurt. Alors, environ un mois après ce décès, Cyrus, déjà empereur et pour faire bonne mesure, prend aussi le titre de roi de Babylone. En fait, il voulait mettre de l'ordre dans les affaires internes de Babylone. En effet, l'élévation de son général Gubaru, appelé Darius le Mède, à la gouvernance d'une cité aussi prestigieuse, avait nourri sa vanité et lui était monté à la tête. À l'image du corbeau de la fable de La Fontaine, il ne se sentait plus et avait adopté un comportement insensé pour un simple vassal, en réclamant des prières pour lui seul, ce qui est raconté plus loin. Pendant tout le temps de la captivité des Israélites à Babylone, Daniel et ses 3 amis sont restés très proches des commandes de l'État parce qu'ils surpassaient en sagesse et en intelligence tous les mages du pays. À travers eux, l'Éternel se manifestait constamment. Les Babyloniens croyaient que leur divinité avait vaincu le Dieu des Hébreux, alors que dans les coulisses, c'est l'Éternel, le Dieu des Hébreux, qui tire toutes les ficelles. Nous arrivons au chapitre 2 de Daniel, qui raconte le songe de Nabuchodonosor représentant les 4 grands empires qui se succèdent avant de faire place au royaume de Dieu. Ce même sujet est repris et développé dans une autre vision. On peut dire que le chapitre 2 est le fondement de la seconde partie du livre qui concerne l'histoire universelle et qui suit l'histoire de l'Empire babylonien. En effet, les révélations que Daniel recevra par la suite sont dans le prolongement de ce chapitre. Cette image d'une statue qui est un alliage de différents métaux et de terre cuite, ainsi que la vision des 4 animaux et la prophétie des 7 ânes, constituent ensemble le squelette de la prophétie biblique. Le discours que Jésus a fait sur le mont des Oliviers concernant les temps de la fin est fondé dans le livre de Daniel. Je lis le passage. Ses disciples s'approchèrent, le prirent à part et lui demandèrent « Dis-nous quand cela se produira et quel signe annoncera ta venue et la fin du monde. Quand donc vous verrez l'abominable profanation annoncée par le prophète Daniel s'établir dans le lieu saint, que celui qui lit comprenne. » Fin de citation. Aujourd'hui, nous vivons toujours dans ce qu'on appelle le temps des nations, et qui a commencé lorsque Nabuchodonosor a détruit Jérusalem. Mais un jour, cette période de l'histoire prendra fin, et alors ce sera au tour de Dieu d'imposer son règne sur terre. Il est intéressant de noter que ce n'est pas Daniel, mais un roi païen qui a reçu cette vision. Cependant, ce n'est pas la première fois que Dieu accorde une révélation à un non-israélite. Dieu a choisi Nabuchodonosor parce que d'une part, il est le premier roi des dictatures universelles qui vont se succéder. D'autre part, c'est lui qui a mis fin au royaume de Juda et donc à la théocratie israélite. En conséquence, Dieu maintenant va faire connaître aux puissances de ce monde leur destin final et comment elles devront à leur tour et pour toujours faire place au règne de Dieu. Je commence à lire le chapitre 2. La seconde année du règne de Nabuchodonosor, le roi fit un rêve qui le troubla au point qu'il en perdit le sommeil. Verset 1. Ce monarque est devenu roi en l'an 605 avant Jésus-Christ, mais selon la méthode babylonienne de compter, sa première année de règne est en 604 et la seconde en 603. Daniel et ses amis viennent tout juste de terminer leurs études quand survient cet incident. Le rêve était une forme intérieure et inférieure de révélation divine, mais dans les circonstances présentes, elle est d'autant mieux choisie que les peuples païens en général, et les Chaldéens en particulier, attachaient au rêve une importance extrême, surtout en leur attribuant un sens prémonitoire. Je continue. Il ordonna de convoquer les mages, les magiciens, les devins et les astrologues pour qu'ils lui révèlent ses rêves. Ils vinrent et se tinrent devant le roi. Celui-ci leur dit « J'ai fait un rêve. et mon esprit est tourmenté par le désir de savoir ce que c'était. » Versets 2 et 3. Nabuchodonosor a reçu une révélation extraordinaire, mais comme il est tout à fait incapable d'en comprendre le sens, elle n'est pour lui qu'un sujet de grand trouble. Alors en pleine nuit, il se met à aboyer en ordonnant qu'on fasse venir sur le champ les plus grands cerveaux du royaume, toutes les catégories de sages que contient Babylone. Une liste impressionnante de spécialistes de la divination se présente et se met au garde à vous devant le roi. On a déjà rencontré les mages et les magiciens. Quant aux devins ou enchanteurs, ils se trouvaient aussi en Égypte et d'après le prophète Ésaïe, ils foisonnaient à Babylone. Les astrologues, littéralement les Chaldéens, étaient des prêtres descendants des premiers habitants de la région. Comme tels, ils avaient la charge des cultes religieux et aussi priorité sur les autres mages. Pour cette raison, ce sont eux qui parlent au nom de tous. Outre ces quatre classes, il en existe une cinquième qui est mentionnée plus loin. Ces mages-là prédisaient l'avenir et déterminaient l'horoscope selon les mouvements des astres. Peut-être lisaient-ils aussi dans les entrailles d'animaux. Ces cinq classes constituaient le collège des sages qui était dirigé par un chef. Or, étant donné l'importance considérable qu'avait alors la magie à Babylone, ce chef occupait une haute position dans l'État. Comme ces diverses classes se complétaient l'une l'autre, Nabuchodonosor les convoque toutes et il est à parier que toutes répondent présent même si la cinquième n'est pas mentionnée dans le texte. Au grand mot, les grands remèdes. Le roi voulait qu'on utilise tous les moyens occultes possibles et imaginables pour découvrir le sens caché de son rêve. Et dans le cas où il annoncerait des malheurs, il fallait chercher à les détourner en rendant les dieux propices par des sacrifices et des prières. Comme chaque classe est représentée par ses dirigeants, Daniel n'est pas présent. Je continue. Les astrologues dirent au roi en langue araméenne « Que le roi vive éternellement, raconte le rêve à tes serviteurs et nous t'en donnerons l'interprétation. » Verset 4. Ce n'est pas la première fois qu'on demande aux sages d'interpréter un rêve et ils sont persuadés qu'ensemble, ils pourront donner une interprétation qui satisfera le roi. À partir de « Que le roi vive éternellement » et jusqu'à la fin du chapitre 7, le texte est en araméen, aussi appelé syriaque, qui était la langue diplomatique, administrative et commerciale des empires assyriens, babyloniens et perses. Elle utilise le même alphabet que l'hébreu, mais présente des différences avec lui. D'après des découvertes archéologiques, on sait aussi que le roi de Babylone avait deux secrétaires, l'un pour les affaires qui devaient se traiter en araméen et l'autre pour celles qui devaient se faire en langue assyro-babylonienne. Comme Israël a cessé d'exister en tant que nation théocratique, Dieu s'adresse au reste du monde en utilisant la langue internationale des païens. Je continue le texte. Le roi répondit aux astrologues. Ma décision est ferme. Si vous ne me révélez pas le contenu du rêve et son interprétation, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en tas de décombres. Mais si vous me les révélez, je vous comblerai de cadeaux, de dons et de grands honneurs. Exposez-moi donc mon rêve et ce qu'il signifie. Versets 5 et 6. Nabuchodonosor lance un gros pavé dans la mare. Alors qu'il a parfaitement gardé le souvenir de son rêve, il a la malice de ne pas le révéler. De cette façon, il va pouvoir évaluer les compétences de ses experts. Ce rêve, l'ayant fortement troublé, il n'est pas d'humeur à plaisanter. Il veut donc une interprétation franche et précise, sans détour et sans fourberie. Je continue. Ils dirent pour la seconde fois au roi que sa majesté raconte le rêve à ses serviteurs et nous lui en donnerons l'interprétation. Le roi rétorqua. Je vois ce qu'il en est. Il est clair que vous cherchez à gagner du temps parce que vous avez compris que ma décision est fermement arrêtée. Si vous ne me faites pas connaître le rêve, une seule et même sentence vous frappera. Vous vous êtes mis d'accord pour me débiter quelques discours mensongers et trompeurs en espérant qu'avec le temps, la situation changera. C'est pourquoi, dites-moi ce que j'ai rêvé et je saurai que vous êtes aussi capable de m'en donner l'interprétation. Versets 7 à 9. Les mages réalisent qu'ils sont dans de vilains draps, alors ils cherchent à gagner du temps. Mais Nabucodonosor est vite agacé parce qu'il n'a aucune envie de s'amuser. En exigeant que ses experts lui racontent son rêve, il veut éviter de se faire berner comme d'habitude, car n'importe qui peut toujours donner n'importe quelle interprétation à n'importe quel rêve, mais rien ne prouve que c'est la bonne. Je continue. Les astrologues reprirent la parole devant le roi et dirent « Il n'est personne au monde qui puisse faire connaître à sa majesté ce qu'elle demande. Aussi, jamais roi, si grand et si puissant qu'il ait été, n'a exigé pareille chose d'aucun mage, magicien ou astrologue. Ce que le roi demande est trop difficile et il n'y a personne qui soit capable de révéler cette chose au roi, excepté les dieux. » Mais eux, ils n'habitent pas parmi les mortels. Versets 10 et 11. Les mages sont au pied du mur, mais se défendent en disant que le roi n'est pas raisonnable de leur demander de lui faire connaître son rêve et l'avenir alors que seuls les dieux pourraient les lui révéler. Ce commentaire est une admission à peine voilée que leur art divinatoire a ses limites et donc qu'ils trompaient régulièrement le roi avec leurs augures et interprétations bidons. Cet aveu d'incompétence et de mauvaise foi dans l'exercice de leur emploi est surprenant de la part de ceux qui étaient tenus en si haute estime à la cour, mais en fait, ils n'ont pas d'autre choix, et c'est leur seul espoir de sauver leur peau. Je continue. Là-dessus, le roi s'irrita et entra dans une colère violente. Il ordonna de mettre à mort tous les sages de Babylone. Lorsque le décret de tuer les sages fut publié, on rechercha aussi Daniel et ses compagnons pour les mettre à mort. Versets 12 et 13. Nabucodonosor, qui était connu pour son tempérament violent, le manifeste dans tout son éclat. Il est tellement furieux qu'il lui faut un immense bain de sang pour calmer sa colère. L'ordre qu'il signe est cruel, mais il n'a rien d'extraordinaire de la part d'un despote oriental. Ce décret de mise à mort balaye large car il ne concerne pas seulement les mages attachés à la cour, mais tous ceux qui leur sont associés d'une manière ou d'une autre, ce qui inclut aussi Daniel et ses amis. Je continue. Alors Daniel s'adressa avec sagesse et tact à Arioch, le chef des gardes du roi, qui s'apprêtait à tuer les sages de Babylone. Il demanda à Arioch, l'officier du roi, pourquoi le roi a-t-il promulgué une si terrible sentence? Alors Arioch lui exposa l'affaire. Versets 14 et 15. La sagesse de Daniel se manifeste partout et donc aussi dans ses relations avec les personnes haut placées. Celles-ci devaient avoir le plus grand respect pour lui parce que, au lieu de l'envoyer promener ou de lui couper la tête, le chef de garde lui explique la situation. Je continue. Daniel se rendit auprès du roi et le pria de lui accorder un délai en lui disant qu'il lui ferait alors connaître l'interprétation demandée. Verset 16. On sait que Daniel avait déjà eu des occasions d'interpréter des rêves, ce qui lui valait de jouir d'une notoriété supplémentaire à la cour, et donc lui ouvrait des portes. Mais même s'il avait ses entrées au palais impérial, il ne pouvait pas se présenter en personne devant Nabucodonosor et devait passer par l'intermédiaire d'un porte-parole, peut-être le grand chambellan, comme cela se faisait à cette époque. Il n'empêche que Daniel ne manque pas de courage en demandant un délai parce que justement le roi a reproché aux mages de chercher à gagner du temps. Je continue. Puis Daniel rentra chez lui et informa ses compagnons, Anania, Michaël et Azaria, de ce qui s'était passé, en leur demandant de supplier le Dieu des cieux que, dans sa grâce, il leur révèle ce secret afin qu'on ne le fasse pas périr, ses compagnons et lui, avec le reste des sages de Babylone. Versets 17 et 18. Le Dieu des cieux est une expression d'origine perse. Après le départ de la gloire de l'Éternel du temple de Jérusalem, ce que le prophète Ézéchiel décrit en détail, Dieu n'était plus localisé sur terre comme auparavant. Le mot secret revient à plusieurs reprises dans ce chapitre. Son équivalent grec est utilisé dans le Nouveau Testament pour désigner les desseins cachés que Dieu a révélés à ses prophètes et aux apôtres. Le récit admet que la requête de Daniel a été acceptée par le roi, mais l'heure est grave, très grave même. Cependant, Daniel croit en une intervention divine à condition qu'elle soit implorée. Et pour donner plus de force à son intercession, il y a ceci, ses amis, qui sont tout aussi concernés que lui. Il n'y a rien de tel qu'une menace pour orienter nos regards et nos supplications vers le Dieu des cieux.